Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 août, vous écoutez Charles Matin, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle matinée d'infos, matinée qui sera largement consacrée aux incendies, parce qu'en Gironde, le feu continue de progresser. Plus de 6000 hectares déjà partis en fumée, 16 maisons brûlées, 10 000 personnes évacuées, 1000 pompiers mobilisés. On fera un point complet évidemment sur la situation et on attend vos témoignages au 3216 et sur Direct Studio. Les pompiers sont mobilisés en Gironde, mais aussi dans le Maine-et-Loire, l'Aveyron, la Drôme, l'Isère, les Pyrénées-Orientales. Le risque est élevé partout. Dites-nous si ça vous inquiète et si on est suffisamment préparé pour faire face à cette situation. Et puis je voudrais qu'on salue tous ensemble le travail des pompiers ce matin sur RMC. Un mois et demi que ça dure, un mois et demi qu'ils travaillent d'arrache-pied pour éteindre les feux et éviter toute reprise. C'est un travail difficile, ils sont exténués. 3216 si vous voulez les encourager. Et puis si vous êtes pompier, venez nous raconter ce que vous vivez actuellement. On parlera également ce matin du cannabis. Une trentaine de sénateurs travaillent sur une proposition de loi pour le légaliser. Ça permettrait, disent-ils, de financer des programmes de prévention grâce aux recettes fiscales de la vente de cannabis. Vos réactions au 3216 sur l'application Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins d'RMC. Et puis il y aura évidemment tous nos rendez-vous dans la Story Sport, notamment après le journal de 5h30. On parlera de l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM. Il a été présenté et c'est un gros coup pour le club marseillais. D'abord sur RMC, la météo du jour avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
La météo va compliquer la tâche des pompiers aujourd'hui.
Oui, avec à nouveau un ciel totalement dégagé, un soleil brûlant, du vent sur tout le pays, vent de nord-est dans la moitié nord, vent de sud dans la vallée du Rhône, vent d'autant en plaine toulousaine jusqu'à 40-50 km/h en rafale et surtout un taux d'humidité extrêmement bas entre 15 et 30% sur tout le pays. On aura toutefois quelques orages à nouveau en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et le relief Corse, orages qui seront localement violents justement sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Attention, prudence, risque de grêle et de fortes rafales de vent. Et puis les températures déjà très élevées ce matin. Il fait actuellement déjà 24 degrés à Toulouse et à Bordeaux, ce qui n'arrange rien. Il a fait chaud toute la nuit. 23 aussi à Bourges et à Tours, 22 à Paris. Dans l'après-midi, comptez sur 30 degrés à Nice, 32 à Strasbourg, 34 à Paris et Brest, 36 à Lyon et Nantes, 37 à Toulouse et La Rochelle, jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, mais très localement 40 dans le sud-ouest et toujours 18 départements de l'Atlantique à la plaine toulousaine en vigilance orange canicule.
Merci Anthony.
Votre météo en toute sérénité avec Verisur. Verisur, le numéro 1 des alarmes et caméras avec protection 24h sur 24. Jeudi 11 août,
l'info sur RMC.
Il est 5h, vous écoutez RMC, bon réveil à tous, c'est le journal de Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, 6200 hectares brûlés en Gironde dans l'espace de quelques heures, 10 000 personnes ont été évacuées. Les flammes qui se dirigent vers, qui progressent dans le département, le ministre de l'Intérieur appelle d'ailleurs à la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires de toute la France. Et puis on se posera cette question ce matin, la consommation de cannabis doit-elle devenir légale? En tout cas, 31 sénateurs considèrent que oui.
Le cauchemar est bel et bien de retour en Gironde.
Avec les flammes qui, trois semaines après le gigantesque feu qui a frappé le département, sont revenus. 6200 hectares de végétation sont partis en fumée. 16 maisons ont été détruites. Le brasier qui progresse, ce qui a entraîné l'évacuation de 10 000 personnes, comme à Belin-Bélier, où ce sont 2200 habitants et des vacanciers qui ont dû quitter le village, Marie Sens.
Comme une impression de déjà-vu, un immense panache de fumée grise et une forte odeur de brûlé. Valérie pensait pourtant en avoir fini avec ce feu.
On a repris la vie normalement. Depuis hier, c'est devenu plus stressant. C'est un peu angoissant. Et puis c'est désolant surtout pour la nature. Il y a des animaux qui sont en train de mourir. On a une forêt qui est assez importante. On perd tout ça, quoi.
Sa famille avait failli évacuer en juillet.
On y a échappé la première fois et puis voilà, quoi. Il va falloir s'y résoudre.
Comme elle, Laurence a dû quitter son domicile hier. Elle habite à quelques centaines de mètres de l'endroit où plusieurs maisons ont brûlé.
J'avais le feu au fond de mon jardin, en fait. Donc je ne sais pas où ça en est. On a peur pour nos biens, on a peur pour nos animaux. Moi, j'ai laissé des poules. J'avais des tortues, mais j'en ai retrouvé qu'une. C'était tellement fumé.
Laurence n'a pas encore de solution pour héberger sa famille. Elle reste donc au gymnase d'une commune voisine.
On a un chien, on est six et c'est pas évident. On sait que ça va prendre quand même pas mal de temps.
On vit au jour le jour du coup.
Tout le monde ici espère que le feu sera vite maîtrisé. Lors de l'incendie de juillet, certains habitants avaient dû attendre une dizaine de jours avant de rentrer chez eux.
Marie Sens à Belin-Bélier. Alors sur place, une cellule psychologique a été ouverte pour les évacuer et les sinistrés. Ce sont aussi plus de 1000 pompiers qui sont à pied d'œuvre pour faire face aux flammes. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin seront sur place dans la matinée. Les autorités qui affirment que la mobilisation du gouvernement est totale, mais aussi que des moyens exceptionnels sont déployés, puisque devant la taille de tels incendies, les moyens locaux ne suffisent plus à les endiguer. Guillaume Bié.
C'est une gestion extrêmement tendue cet été, justement parce que le risque d'incendie touche toutes les régions. Alors les renforts de sapeurs-pompiers disponibles sont plus difficiles à trouver et viennent parfois de l'autre bout de la France. Exemple en Gironde, des pompiers vosgiens luttent actuellement contre les flammes. Le mois dernier, d'autres étaient venus du Jura. Ils sont depuis partis prêter main forte en Bretagne. Des renforts et un dispositif piloté en temps réel depuis le ministère de l'Intérieur au centre opérationnel de gestion de crise. Au total, plus de 60 000 pompiers ont déjà été mobilisés sur les feux de forêt cet été, soit un quart des effectifs de toute la France. Une situation exceptionnelle face à laquelle les autorités ont demandé l'aide européenne pour appuyer les pompiers français.
Et à ce propos, pour venir en aide aux soldats du feu déjà mobilisés, Gérald Darmanin demande à ce que les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires puissent être libérées de leurs fonctions pour renforcer le dispositif de lutte contre ces incendies.
RMC 5h03, on en vient à cette question qui revient à la une ce matin. Faut-il légaliser le cannabis ?
31 sénateurs socialistes plaident en faveur de cette légalisation dans une tribune publiée dans Le Monde hier. Ils mettent en avant l'effet bénéfique de cette décision pour financer notamment des programmes de prévention grâce aux recettes fiscales de la vente de cannabis. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur du PS du Rhône, est à l'initiative de cette tribune.
La prohibition aujourd'hui, elle n'a pas démontré son efficacité, bien au contraire. On est dans l'impasse. Comme c'est un produit illicite, comment vous voulez faire une bonne politique de prévention sur un produit qui est interdit ? Comment vous voulez savoir ce qui est vendu, la qualité de ce qui est vendu ? Bien sûr, je trouve que c'est pas normal de se droguer, mais c'est le constat. Comment cet argent qui va dans des réseaux mafieux peut bénéficier à la société ? Il n'y a pas de bonne solution. La moins mauvaise solution, c'est de légaliser.
Alors, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Vous nous dites, hein, au 32-16 et sur Direct Studio, on recevra Bernard Jomier, médecin sénateur de Paris, signataire de cette tribune à 6h40. Ce sera le parti pris.
Les hôteliers peuvent respirer encore un peu plus. La fréquentation de leurs établissements s'est rapprochée au trimestre dernier de son niveau d'avant la crise du Covid. De bon augure pour le secteur alors que la période estivale bat son plein. Et puis, il n'aura donc pas survécu le beluga qui s'était perdu dans la Seine et mort. Il n'a donc pas survécu à son opération de sauvetage. Son état s'est aggravé lors de son transfert à Ouistreham dans le Calvados où il devait y être soigné.
Retour sur le premier jour du procès de Benjamin Mendy hier.
Le footballeur français qui est jugé au Royaume-Uni pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, 10 chefs d'accusation au total. Il nie les faits. Compte rendu d'audience signé Nicolas Pelletier.
Sans dire un mot, devant une nuée de caméras et de photographes, Benjamin Mendy est rapidement entré dans la salle d'audience numéro 1 de Chester, petite ville au sud de Manchester. L'homme connu pour sa bonne humeur s'est assis aux côtés de son interprète dans le box des accusés. Benjamin Mendy, vêtu de son costume sombre, s'est ensuite levé devant le juge pour décliner son identité avant de plaider avec une toute petite voix une nouvelle fois non coupable pour un 10e fait qui lui est reproché. Au total, Benjamin Mendy est accusé par 7 femmes de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Des joueurs de Manchester City pourrait être auditionné pendant ce procès. Lors de la sélection du jury, la justice anglaise a demandé s'il connaissait personnellement ou avait des liens avec 5 joueurs du club, dont l'Algérien Riyad Mahrez. La première prise de parole du procureur est attendue lundi. L'audience devrait durer un peu plus de 10 semaines.
Nicolas Pelletier, envoyé spécial de RMC à Chester, au Royaume-Uni.
Le foot, mais sur le terrain cette fois.
Avec d'abord la victoire du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe. Hier soir, les joueurs du club de la capitale espagnole se sont imposés face à Francfort, 2-0. La Coupe du monde de foot est avancé d'un jour. Ce sera à partir du 20 novembre, un changement de date pour permettre au Qatar, pays hôte du tournoi, de disputer le match d'ouverture face à l'Équateur. Et puis du tennis avec ce coup de théâtre à Montréal. Le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 par l'Australien Nick Kyrgios, 37e au classement ATP.
On termine ce journal à la mer.
Avec une idée d'activité sur la plage, puisque si vous trouvez que faire bronzelle c'est ennuyeux, que les raquettes c'est passé d'âge ou que le paddle vous donne le mal de mer, voici l'activité parfaite, le sea boxing. Concrètement, il s'agit de faire de la boxe dans l'eau. Eh bien, Lucille Pascanem s'est essayée à ce mélange de boxe et d'aquagym à la Grande Motte.
9h45, le ciel est maussade au-dessus de la mer ce matin. Pas de quoi décourager les participants au cours de sea boxing. Ils enfilent leurs chaussons et leurs maillots de bain.
Est-ce que tout le monde a mis ses gants de boxe ?
Clémentine, l'animatrice, distribue.
On y va ?
Direction l'eau pour 45 minutes de boxe immergée jusqu'au nombril.
On attrape la tête de son adversaire et on va l'éclater avec le genou droit. Allez, c'est parti, on fait ça en sautillant sur la jambe d'appui.
Chaque cours peut accueillir une quinzaine de participants. À la fin de la séance, ils sont conquis, comme Julien, qui vient d'enfiler son poncho.
J'ai tapé dans l'eau avec mes poings, avec mes pieds. Je me suis un peu défoulé, c'était agréable d'être dans l'eau. À un moment, il y a des petits poissons qui sautaient autour de nous, c'était marrant.
Sylvie, elle revient chaque été depuis plusieurs années.
On sent l'eau qui se meut, on sent les vagues. Et on doit tout de même maintenir un équilibre pour ne pas perdre pied. C'est très très bien.
Mais travailler son équilibre en douceur n'est pas le seul bienfait du seaboxing. Clémentine Léonard, maître nageur, a inventé cette discipline.
On va avoir les bienfaits de l'eau de mer, les bienfaits de l'eau froide aussi. Alors là, pas trop parce qu'elle est à 25-26 degrés. Comme une thalasso, mais version sportive.
Pour vous offrir cette thalasso sportive, comptez une quinzaine d'euros la séance.
Le reportage de Lucille Pascanet.
Pourquoi pas le seaboxing ?
Oh, c'est sympa. Moi, je suis plus livre et farniente.
Ouais. Chacun son
le
truc.
Le sport, c'est pas trop.
Non, mais je connaissais pas. Pourquoi pas ? C'est pas trop ton truc. Oh, ça se voit pas.
Oh, bon.
Stéphane. Merci beaucoup pour ce journal. On te retrouve dans moins d'une heure avec toute l'équipe.
Tout à l'heure.
C'est l'heure de jouer.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de gagner des cadeaux. Je vous rappelle le principe, il faut tendre l'oreille pour reconnaître cette personnalité.
Je crois que si c'est pas lui qui gagne, il y a une erreur dans les votations. Je crois que, à part de Karim, je crois pas que quelqu'un a joué une année comme ça. Non, c'est un mec qui travaille toujours très fort. Naturellement, il a un talent exceptionnel et je suis sûr qu'il va mener le trophée.
Alors, c'est pas si simple. Je vous donne un bel indice. C'est un gardien qui n'a pas encaissé de but hier. Son équipe s'est imposée contre Francfort en Supercoupe d'Europe. Si vous avez trouvé, bah, vous repartirez peut-être avec une montre Icewatch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Pour cela, c'est simple, vous faites le 32-16. Bonne chance à vous. Dans un instant, dans Charles Matin, on va parler des incendies qui embrasent actuellement tout le pays. 8 grands feux touchent la France. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce qu'on est suffisamment préparé pour y faire face ? Je vous attends au 32-16 et sur Direct Studio, évidemment.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin. RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
5h11, ce matin on parle des incendies qui touchent le pays depuis le début de l'été avec une question simple. Est-ce que vous êtes inquiet ?
C'est la question du jour sur RMC.
Émission donc largement consacrée aux incendies puisque le cauchemar se poursuit. 8 grands feux touchent actuellement le pays, notamment donc en Gironde où Elisabeth Borne, la première ministre, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendent aujourd'hui pour dire que le gouvernement est pleinement mobilisé. Gérald Darmanin, qui a alerté hier sur les comportements des Français face à ces incendies à répétition, il appelle tout le monde à la vigilance.
Quand on jette son mégot, quand on fait un barbecue, lorsqu'on a sa voiture qui fait fonctionner son moteur, lorsqu'on utilise mal ses engins électriques ou lorsqu'on fait des randonnées, on est responsable des feux de forêt. Et donc je veux redire ici que chacun des Français qui nous écoute doit avoir un comportement civique.
Alors question ce matin, est-ce que ce qu'il se passe depuis le début de l'été vous a fait réfléchir ? Est-ce que vous faites davantage attention avec, je sais pas moi, vos mégots, tout ce qui pourrait causer un incendie ? 32-16, hein, je vous attends, venez témoigner. Il y a quelques années, ces drames touchaient essentiellement le sud de la France, mais tout le monde est désormais concerné, le danger est élevé partout, on ne cesse de le répéter. Pour autant, les Français sont-ils plus prudent, quelles conséquences sur votre quotidien ? Est-ce que vous faites le nécessaire pour préserver les ressources ? Reportage dans les Yvelines, signé Garance Munoz avec Alfred Orange.
Le mois dernier, un champ a brûlé à quelques encablures de la maison de Philippe, mais pas de quoi l'impressionner.
J'ai jamais vu de feu de chance propagé à des maisons, donc ça m'interpelle pas plus que ça.
Dans ce contexte, changer ses gestes au quotidien, il n'y a donc pas encore trop réfléchi.
Je pense que j'ai déjà un comportement qui est sans risque. Je n'irai pas allumer un barbecue à à un mètre d'un champ de blé.
Mais il y en a pour qui s'adapter est déjà une nécessité pour subsister, chez les agriculteurs notamment. Pour prévenir le risque d'incendie dans ses champs, Lionel utilise son tracteur pour faire du déchaumage.
C'est-à-dire retourner la terre en faisant des bandes de 20-25 mètres, en passant plusieurs fois les outils, donc ça crée une bande qui arrête l'incendie. S'il y a un mégot qui est lancé d'une voiture ou quelque chose, donc à partir de ce moment-là, le feu ne démarre pas.
Le feu, un déclic pour changer de comportement, c'est le cas de Marie qui a passé ses vacances dans le Gard au milieu des feux.
On est obligé de changer par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Ça s'impose à nous.
Les incendies sont aggravés par un contexte de forte sécheresse. Cette mère de famille a donc décidé qu'économiser l'eau était essentiel et a tenu à convoquer ses trois enfants pour leur annoncer.
Une réunion pour dire, bon bah voilà, maintenant on essaye de se chronométrer, on se met un petit peu moins de temps, on met une alarme. Il y a des alarmes sur les téléphones. On met une alarme en se disant, bah voilà, quand ça sonne, je dois avoir terminé ma douche, par exemple. Bon, on n'est pas alarmé quand même, faut pas exagérer, mais bon, réduire ne serait-ce que 5 minutes de moins dans la douche, au niveau, ça fait quand même une bonne quantité d'eau, je pense.
Depuis le début de l'année, ce sont 56 000 hectares qui sont partis en fumée en France.
Alors et vous, est-ce que vous êtes plus vigilant? Est-ce que ça vous inquiète? Venez témoigner ce matin au 32-16. Daniel nous appelle de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes fonctionnaire. Oui. Vous nous appelez pour parler justement de ces incendies qui touchent tout le pays, on peut le dire, hein, depuis le début de l'été. Est-ce que ça vous inquiète?
Oui. Ben oui, c'est inquiétant. Puis je ne serais pas le seul à m'inquiéter parce qu'on a plus de 30 000 hectares. 30 000 hectares, c'est quand même hallucinant, quoi. Hallucinant. Et ça fait presque deux mois que ça brûle.
Plus de 56 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. C'est énorme.
Voilà. 36 000, vous dites ?
56 000 depuis le début de l'année, hein, pas depuis le début de l'été, depuis le début de l'année. C'est énorme, c'est énorme. Vous pensez qu'on est suffisamment armé ?
Absolument pas, non. Alors justement, je viens d'entendre votre collègue journaliste là, qui parlait à l'instant de légaliser le cannabis. Je pense que les députés que l'on paye, les sénateurs et députés, tous ces gens-là qu'on paye grassement, quand on les voit dormir, enfin, pas les nouveaux, mais enfin les anciens, quand on les a vus dormir à l'Assemblée, je me demande, au lieu de légaliser du cannabis, s'il n'y a pas des choses plus urgentes, et notamment de restructurer le parc d'avions.
C'est vrai que les moyens aériens de lutte contre les incendies sont insuffisants.
Voilà,
c'est
ça. Voilà,
c'est pour ça d'ailleurs que la France a demandé de l'aide aux pays européens.
Mais alors c'est ce que disait votre collègue qui m'a pris en charge là, tout à l'heure. Mais avec tous les impôts qu'on paye, on est un des pays les plus taxés du monde. Vous voyez ? Alors depuis le temps qu'on paye des impôts, qu'ont fait nos élus, tous ces escrocs qui ont été mis en examen, machin, tout ça, tous ces guignols qui étaient à l'Assemblée jusqu'à maintenant, comment se fait-il que personne n'ait parlé de restructurer le parc d'avions, quoi? C'est complètement hallucinant. Au lieu de faire des feux d'artifice à tire-larigot, là, je vois un feu d'artifice, ça coûte plus de...
On sent que vous êtes en colère ce matin, Daniel.
Ah bah oui, mais carrément, bah oui. Ça brûle tous les jours. Les gens sont gavés de mauvaises nouvelles tous les jours. Mmh. Alors, ça part des incendies, on n'arrête pas, ça brûle. On est dans 60 000 hectares. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. Mmh. Je veux pas insister sur le fait que les gens ne se rendent pas compte et le pourquoi de tout ça. Mais en plus de ça, alors
Est-ce que vous dites les gens ne se rendent pas compte? Est-ce que vous-même vous faites attention dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a une prise de conscience?
Quand j'entends Darmanin qui responsabilise les citoyens,
oui.
C'est un scandale. Mais il se prend pour qui, lui? Qu'il laisse tourner sa bagnole pour la climatisation devant l'Élysée pour que monsieur mette son popotin au frais dans sa voiture de service?
C'est pas aussi son rôle de dire aux Français faites attention.
Non, c'est pas
ça
du tout
partout.
Son rôle. Non, pas du tout. Qu'il fasse son travail. Voilà. Que les ministres fassent leur travail et surtout qu'ils posent les bonnes questions de s'occuper du hachis, des machins, de la légalisation. Enfin, c'est n'importe quoi.
Daniel,
en France,
en colère ce matin.
Très en colère parce que je suis originaire de la frontière suisse à l'origine, parce que je n'ai pas l'accent du midi, vous avez noté, je pense. Et quand on va en Suisse, on fait sourire les Suisses qui nous appellent la grande nation, comme les Belges d'ailleurs. Vous voyez, ils se moquent un peu de nous et ils ont raison, ils ont bien raison. Quand on voit maintenant que même le Brésil nous rétrograde dans les limbes de l'oubli, quasiment en termes de classification.
Vous pensez, je vais résumer votre propos, Daniel, vous pensez qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui se passe actuellement? C'est
mais ça. Absolument pas. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer,
dites-moi.
Simplement, nous en France, on parle. Et j'ai un exemple criant de faiblesse de notre pays, les prises de décision. On met une semaine pour euthanasier un beluga.
Oui, alors ça c'est un autre sujet, mais en tout cas j'ai compris le sens de votre propos. Vous pensez qu'on parle beaucoup, mais qu'on n'agit pas assez rapidement. Merci beaucoup Daniel. Cette situation vous inquiète et vous n'êtes pas le seul. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur Direct Studio. Allez-y, j'attends vos réactions et puis je vous attends au 32-16, évidemment. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, Daniel. Il est 5h18.
Les artisans de nos régions.
C'est l'heure donc de la chronique des artisans. On vous emmène ce matin découvrir une profession méconnue à la rencontre d'artisans que vous pouvez aller voir pendant vos vacances. Ce matin, nous sommes dans une région où les taureaux et les chevaux vivent en liberté. La Camargue, où depuis plus de 60 ans, une petite PME fabrique des bottes traditionnelles camarguaises. Celles portées par les gardiens, les bergers qui gardent les troupeaux en Camargue. Ces chaussures s'arrachent désormais dans le monde entier. Estelle Henry nous emmène visiter l'atelier de la botte gardienne à Aigues-Vives dans le Gard. Reportage.
En quelques années, elle est devenue la star des magazines de mode. Pourtant, dans les années 50, loin des paillettes, c'est au pied des gardiens que la botte camarguaise s'est fait un nom. Ces mythiques cavaliers dont le marquis de Baroncelli, poète ami de Frédéric Mistral, a inventé la garde-robe. Antoine Agulon, directeur de la botte gardienne.
C'est quelqu'un en fait qui s'est intéressé à la Camargue et à ses acteurs, donc notamment les gardiens, et qui a voulu leur donner une image. Et donc il a un peu créé en quelque sorte le vestiaire.
Créée en 1958, l'entreprise est reprise dans les années 90 par la famille Agulon, originaire du Gard. Antoine, le fils, la dirige désormais avec son frère et sa sœur.
Mon père a repris l'entreprise. À cette époque, en plus, il y avait beaucoup d'entreprises de la chaussure ou du textile qui fermaient, donc c'était vraiment un pari très osé. Il a été courageux, on me prenait même un peu pour un fou à l'époque. Mais voilà, de voir la dernière entreprise de bottes camarguaises fermée, ça lui a fait un crève-cœur.
Pour réussir son pari, la famille Agulon mise alors sur le savoir-faire et la qualité de la matière première, un cuir alsacien exceptionnel. Aujourd'hui, 30 étapes sont nécessaires pour confectionner la botte traditionnelle. Et au tout début de la chaîne, c'est le poste de Colette, coupeuse. Arrivée il y a 3 ans, elle a été formée pendant plusieurs mois.
Quand j'ai commencé ici, on m'a mise d'abord à la préparation. Donc c'est donner un coup de main un petit peu aux piqueuses pour placer les baguettes ou des choses comme ça, ou coller des doublures. Et très vite, on m'a mis à la coupe, puis j'ai appris sur le tas avec les collègues. C'est un travail d'équipe et c'est important. Et ça se ressent d'ailleurs, hein. Quand il y en a un qui a besoin d'un coup de main, ben voilà, il est là, quoi.
Aujourd'hui, Colette découpe 200 pièces de sacs filets en cuir qui partiront dans quelques jours pour la Corée du Sud, le plus gros client étranger de l'entreprise, car il a fallu se diversifier.
Ça reste un produit qui dure très longtemps. Donc en général, nous les gardiens, s'ils achètent une paire de bottes, ils vont la garder 10-15 ans. Donc c'est important aussi de s'adresser à tout le monde pour nous. Pour la saisonnalité, par exemple, on vend beaucoup de sandales, on a des chaussures. Aujourd'hui, notre clientèle principale, elle vit dans les villes. On a nos deux boutiques à Paris qui vendent plutôt aux Parisiens qu'aux gardiens.
20 paires de chaussures sortent chaque jour de l'atelier. Un travail manuel assisté par des machines dont certaines, comme cette cloueuse, donnent quelques fils à retordre.
Alors là, ce qu'il y a, c'est juste que elle est vieille, elle a 80 ans et de temps en temps, il y a des pièces qui cassent. Bon, là, ce matin, il faut la réparer parce que il y a une pièce qui s'est cassée.
Une production qui est ensuite proposée à la vente dans la boutique attenante avec le service après-vente. Annie et Chantal sont justement venues faire réparer une paire.
Ils m'ont refait la semelle, ils m'ont refait les petits trous dont j'avais besoin. C'est tout neuf. Quand on a un problème, il n'y a pas de souci, on vient chercher ses chaussures. Et j'en ai profité pour commander une nouvelle paire. C'était un certain budget, mais la qualité est là, donc oui. On ne la jette pas au bout d'un an. Quoi, hein, voilà.
Comptez environ 440 euros pour une paire de bottes gardiennes traditionnelles dont vous pouvez suivre la fabrication lors de visites gratuites proposées à l'atelier.
Oh, ça a l'air sympa. C'est pas donné, hein, mais ça a l'air très sympa. Reportage d'Estelle Henry en Camargue. Merci beaucoup, ma chère Estelle. On va revenir aux incendies qui touchent actuellement le pays. Ça n'arrête pas. Plus de 56 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. On est en train de vivre un été infernal. Les pompiers sont mobilisés partout. Le risque est élevé dans tout le pays. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait réfléchir sur vos comportements à vous? Je vous attends 32-16 et sur Direct Studio. On en parle tout au long de cette matinée sur RMC. Dans un instant, le rappel des titres, le point sur la météo, essentielle justement pour lutter contre les incendies. Et puis il y aura les insolites de Quentin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h, Charles Matin.
5h23, vous écoutez RMC à la une ce matin. Les pompiers luttent toujours contre les flammes près de Landiras en Gironde. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. 6200 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. On y revient tout au long de la matinée. D'ailleurs, Elisabeth Borne, la première ministre, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sont attendus en Gironde aujourd'hui. Déplacement pour souligner que la mobilisation du gouvernement est, je cite, totale. Et puis le Real Madrid remporte la Supercoupe de l'UEFA contre Francfort. Victoire 2-0 avec notamment un but de Karim Benzema. La météo avec Anthony Kazmarek, temps chaud et sec.
Oui, et évidemment, ça n'arrange rien sur le front de la lutte contre les incendies, avec en plus, sous ce soleil brûlant, un vent sec, un vent continental qui va souffler à 40 km/h sur quasiment tout le pays. Vent du sud, même dans la vallée du Rhône, et vent d'autant en pleine toulousaine. Quelques orages qui seront parfois violents sur les reliefs du sud dans l'après-midi, et notamment vers les Alpes du Sud et la montagne Corse. Les températures encore en hausse, généralement de 33 à 39 degrés, un peu moins en bord de Manche et près de la Méditerranée grâce aux brises de mer, jusqu'à 39 ou 40 degrés en Gironde et dans les Landes. 18 départements de l'Ouest sont toujours en vigilance orange canicule.
Merci beaucoup. C'est l'heure de sourire avec Quentin.
Les insolites de Quentin.
Quentin, tu vas nous raconter une histoire qui se passe aux États-Unis. La chaîne de supermarchés Aldi lance un casting pour trouver le couple qui aura l'honneur de se marier dans l'un de ses magasins.
Oui, c'est
drôle d'idée.
Oui, exactement. C'est un concours mis en place pour les fans absolus de la marque. Vous l'ignorez peut-être, mais il existe déjà des demandes en mariage sur le thème d'Aldi, des photos de fiançailles, des anniversaires et même des baby showers. Alors, la marque de supermarché a eu une idée, permettre à un couple de célébrer l'étape ultime, le mariage, dans l'un des magasins de la chaîne.
Comment ils vont sélectionner ce couple gagnant?
Via un casting. Les couples intéressés ont jusqu'au 17 août pour envoyer leur candidature. Ils doivent décrire leur histoire d'amour, montrer en quoi ils aiment Aldi, envoyer une photo d'eux ainsi que les liens de leurs réseaux sociaux, sans oublier qu'ils vont devoir expliquer pourquoi ils méritent d'être le premier couple de l'histoire à se marier dans un magasin de l'enseigne.
C'est pour les vrais fans de la marque, effectivement. Non, mais je ne savais pas qu'il y avait des mariages sur le thème Aldi, et ça me semble fou.
Bah, aux États-Unis, en fait, la chaîne est en train de devenir numéro 1 et les gens ont l'air d'être vraiment fans.
Ouais. Comment ça se passe au niveau de l'organisation?
Les mariés n'ont rien à gérer si ce n'est les invités. La chaîne voit les choses en grand pour ce jour béni. Tout est pris en charge. Les frais d'hébergement, de coiffure, de maquillage, le photographe, la réception pour le couple et leurs 50 invités. La réception sera d'ailleurs servie avec, vous vous en doutez, de la nourriture et des boissons Aldi. Comme ça, s'il manque quelque chose, on file en rayon et c'est réglé. Le mariage aura lieu au Aldi Insight Center, le magasin phare de la marque à Batavia dans l'Illinois, transformé pour l'occasion en salle de mariage avec un cadre d'Aldi qui officiera. Le couple aura même le droit à une séance photo romantique devant le magasin. Pour finir,
romantique devant un magasin, devant une chaîne de supermarchés. C'est ce que la chaîne propose.
Ah,
ils sont fous, ces Américains.
Tu sais, il y en a qui se marient au Burger King ou au McDo. Hein,
ouais, mais ça bon. Non plus, je comprends pas.
Pour finir, Aldi offrira à l'heureux couple des courses gratuites pendant un an sous la forme de 5000 euros de cartes cadeaux. Petite précision quand même, la date de mariage est déjà fixée par Aldi, sera le 9 novembre et c'est tout, pas d'autre choix possible.
Ah bon.
Ça laisse donc 3 mois pour envoyer les invitations et acheter la robe.
Bon bah écoutez, si vous avez envie de vous marier dans une chaîne de supermarché, c'est ouvert aux Français ou pas?
Non, c'est qu'aux États-Unis pour le moment. C'est le premier, attention, ça se trouve.
Ah oui, bah oui, ça va peut-être débarquer.
Si ça marche.
En France.
Ouais.
Wow, qui aurait envie de se marier chez Aldi?
Honnêtement, beaucoup, je pense.
Ah bon, tu crois?
Tout est payé. Ouais, je suis sûr.
Ouais,
ça marche.
Ouais, bon, bah on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec toi. Merci beaucoup. Quentin, c'est l'heure de découvrir qui a reconnu la voix du jour.
RMC, la voix du jour.
C'est Faisal qui a reconnu la voix du jour. Enfin, je pense. Bonjour Faisal.
Oui, bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Oui, comme vous, ça va bien, très bien.
Faisal, vous savez ce qu'on va faire? On va réécouter la voix que j'ai diffusée juste après le journal de 5h. Et puis, on aura votre réponse juste après.
Je crois que si c'est pas lui qui gagne, il y a une erreur dans les votations. Je crois que, à part de Karim, je crois pas que quelqu'un a joué une année comme ça. Non, c'est un mec qui travaille toujours très fort. Naturellement, il a un talent exceptionnel et je suis sûr qu'il va mener le trophée.
Connaître la voix, là.
Alors, Faisal, est-ce que vous pensez avoir reconnu cette voix?
Oui, oui, j'ai reconnu, c'est le gardien du Real de Madrid, Thibaut Courtois.
Bien joué, très bien joué, qui a gagné hier face à Francfort, la Super Coupe de l'UEFA, victoire 2-0. Donc, il n'a pas encaissé de but. Bravo à vous, Faisal. Vous savez ce qu'on vous envoie? Une super montre Ice Watch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle. Bravo à vous, passez une
magnifique,
excellente journée.
Super montre écologique, j'adore, merci beaucoup.
Bah, je suis ravie d'entendre que ça vous fait plaisir. On vous l'envoie.
Ah bah, attendez, une montre comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Il est 5h28, vous écoutez RMC. Passez une excellente journée dans un instant. La météo et le journal. Vous écoutez RMC, bon réveil. Le journal d'Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Le cauchemar se répète en Gironde. Plus de 6000 hectares brûlés en quelques heures et le feu continue de progresser. 8 grands feux en même temps sur le territoire, du jamais vu en France. Le ministre de l'Intérieur appelle à la mobilisation générale des sapeurs-pompiers de tout le pays. Et puis une 5e Super Coupe d'Europe pour le Real Madrid grâce à un but de Karim Benzema. L'attaquant se rapproche un peu plus du Ballon d'Or.
Le feu continue sa progression vers les Landes. 6200 hectares partis en fumée. Depuis mardi, 40 nouveaux départs de feu ont été enregistrés dans les forêts girondines. La faute aux fortes chaleurs, au manque d'eau, mais aussi à ce territoire, au sol si particulier. Un sol fait de tourbe, une accumulation de végétaux morts hautement inflammables. Résultat, après le premier épisode incendiaire en juillet, le feu a continué à couver dans les terres. Explication avec Francis Muller, directeur du pôle relais tourbière en France.
La tourbe, c'est des végétaux qui se sont accumulés dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Ce sol, il est composé en grande partie de carbone et cela rend ainsi possible sa combustion. Ce feu peut pouvoir couver dans le sol parfois pendant des semaines ou des mois parce que c'est un feu qui se fait lentement. On ne va pas voir de flammes qui vont se manifester. C'est un feu qui pose vraiment des difficultés parce qu'on ne sait pas où il arrive et où il se produit. Il est très difficile de venir à bout d'un tel feu tant que les conditions météo ne se sont pas améliorées et qu'il ne pleut pas copieusement.
En Gironde, 1000 pompiers sont mobilisés, appuyés par d'importants moyens aériens, notamment 6 Canadair. Le ministre de l'Intérieur en déplacement dans l'Aveyron hier, où un autre feu fait rage, appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires actuellement au travail, comme David Macri, employé chez Carrefour. Ce pompier volontaire au sein du SDIS de l'Ain a déjà été mobilisé en Gironde il y a un mois. Il pourrait l'être à nouveau dans les prochains jours.
Moi, je suis astreinte de nouveau à partir du 19 août. Si toutefois, il y a une demande de renfort qui est faite par les centres opérationnels de zone pour renforcer une zone comme là, le Sud-Ouest, je suis mobilisable, je reçois mon texto, je prends mon sac et je pars. L'entreprise, parfois, avoir un pompier volontaire est un peu comme une tare, en pensant qu'il est obligé de le laisser partir. Il n'est pas obligé, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Et j'ai une convention avec l'entreprise qui me permet, en cas d'appel, en cas de besoin, de me libérer. Et quand le dialogue est fait entre les entreprises, les sapeurs-pompiers volontaires et les SDIS, tout fonctionne à merveille.
Pour le moment, 10 000 personnes évacuées dans les Landes et en Gironde, notamment dans les communes d'Austens, de Sainte-Magne et certains secteurs de Bélin-Bélier. Plusieurs habitations sont menacées, mais les habitants sont aussi évacués à cause des fumées toxiques très dangereuses pour la santé. L'ARS de Nouvelle-Aquitaine renouvelle ses recommandations aux populations et conseille de porter des masques filtrants FFP2 ou FFP3, notamment pour les personnes les plus vulnérables, précise Sylvie Quillet, directrice déléguée à la santé publique au sein de l'ARS de la région.
Par exemple, les personnes asthmatiques, elles risquent de faire déclencher une crise d'asthme. Les personnes avec une pathologie cardiovasculaire, avoir des troubles respiratoires. Cela, on va vraiment leur demander d'être très vigilants. S'ils sont gênés, d'appeler leur médecin ou d'appeler le 15. Et puis, il y a tous les autres, la population générale, pour lesquels on va recommander d'éviter de rester trop longtemps dehors. Et s'ils doivent être dehors, de porter un masque, plutôt les masques FFP2, voire les masques FFP3.
Sylvie Quellet, directrice déléguée à la santé publique au sein de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.
RMC 5h34, et dans ce contexte, le thermomètre continue de grimper sur tout le pays.
Et la liste des départements en vigilance orange canicule s'allonge. Le Morbihan et le Finistère rejoignent les 16 autres placés en vigilance depuis mardi. Météo France conseille de ne pas sortir entre 11h et 21h. Dans les grandes villes, les Français étouffent, notamment à Paris, où chacun a son astuce pour trouver un peu de fraîcheur.
J'ai emmené mon fils au parc et il y a le brumisateur, donc ça fait un peu du bien.
On va passer plusieurs fois sur le brumisateur.
Les enfants sont plus en forme une fois qu'ils se sont rafraîchis. Ils se sont baignés dans ce petit bassin, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ça fait le plus grand bien.
Avec cette chaleur, j'essaie de les faire sortir. On fait du sport le matin très tôt.
Le matin, on va se balader quand il fait frais. Je vais à la piscine des fois.
Je les ramène au centre commercial. C'est un endroit comme des refuges aussi. Tout est climatisé.
On a fait un peu de cinéma parce que c'est rafraîchissant. Voilà, on va faire un peu de shopping. Et peut-être qu'on va acheter des glaces aussi. Pour l'été, c'est pas mal.
C'est un petit logo que vous avez sûrement déjà vu en faisant vos courses. Le Nutri-Score, il évalue de A à E si les aliments sont bons pour la santé. Son algorithme va être amélioré pour mieux coller. Recommandations des nutritionnistes, pas de grands chamboulements, mais surtout des ajustements, Romain Houg.
Oui, l'idée n'est pas de révolutionner l'algorithme, mais simplement de l'ajuster pour mieux prendre en compte les recommandations des nutritionnistes. Prenons par exemple les huiles. On sait aujourd'hui que certaines sont moins riches en graisses saturées et donc meilleures pour la santé. C'est le cas de l'huile d'olive ou de noix. Eh bien, les produits fabriqués à base de ces huiles seront mieux notés que ceux qui intègrent des huiles moins vertueuses. Ce n'était pas vraiment le cas jusqu'ici. C'est le même principe pour le poisson, comme le saumon. On dit souvent que c'est du bon gras. Eh bien, il sera mieux noté que la viande rouge que les nutritionnistes recommandent de limiter. Pareil pour les produits transformés, plats préparés, pizzas seront moins bien notés, tout comme les produits trop sucrés ou trop salés. Ce nouvel algorithme, il devrait être validé d'ici la fin de l'année et les nouveaux Nutri-Score affichés en rayon dans les semaines suivantes.
Et puis une cinquième Super Coupe d'Europe pour le Real Madrid. Hier soir, le vainqueur de la Ligue des Champions s'est imposé face à l'Eintracht Francfort 2-0 avec notamment un but de Karim Benzema à la 65e minute. Avec ce nouveau trophée, la perspective du Ballon d'Or pour l'attaquant se concrétise encore un peu plus. C'est en tout cas ce que pense son coach Carlo Ancelotti.
C'est un joueur très important, un leader de l'équipe. Et si on est arrivé jusque-là, c'est grâce à lui. Il a marqué beaucoup de buts. La saison s'est bien terminée et elle vient de bien commencer. Personne ne doute qu'il sera Ballon d'Or. Je pense vraiment que personne n'en doute.
Et la liste des candidats sera d'ailleurs dévoilée demain. S'ouvre aujourd'hui à Munich les championnats d'Europe multisports. Deuxième édition de ce rassemblement après Glasgow en 2018. Les précisions sur ces championnats avec notre envoyé spécial sur place, Morgan Maury.
L'idée est simple, rassembler le plus de sports possible dans une même ville à la manière des Jeux Olympiques, mais cette fois pour des championnats d'Europe. Pas de défilé dans un stade ni de village pour les 4700 athlètes, mais 11 jours de compétition, 9 sports, les principaux cyclisme, athlétisme, gymnastique, tennis de table, aviron. L'Union fait la force, objectif, capter plus de médiatisation dans une période où le football est moins présent. Pas facile pour les sportifs, certains vont disputer un championnat du monde dans la foulée, d'autres en sortent tout juste. C'est le cas de Kevin Mayer, sacré roi du décathlon en juillet aux États-Unis. Le Montpelliérain sera la star de l'équipe de France dans le stade qui a accueilli les JO en 1972.
Les précisions de Morgan Maury. Et puis un Français qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 canadien. Gaël Monfils s'est imposé hier en 2-7 à Montréal face à Maxime Crécy. Les courses aujourd'hui, ça se passe à l'Hippodrome d'Enghien à 20h15. Oui, tout de suite, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 6, Pharrell Seven. L'outsider, le numéro 2, Krakatou. Le 6 et le 2, la course du Quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Alexandra, on te retrouve avec Sébastien Krebs et toute l'équipe dans moins d'une heure. Il est 5h38 et on file à Marseille.
La Story Sport.
Pour la Story Sport avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Anaïs.
Ce matin, tu vas nous parler d'Alexis Sanchez, la nouvelle recrue de l'OM qui s'engage donc pour 2 ans. Le Chilien a été présenté hier.
Et avec cette ambiance de dingue, on pourrait croire qu'il est le héros de l'OM, de tout un peuple. Le Chilien a été accueilli donc mardi soir à sa sortie de l'avion comme une rockstar au milieu des champs et des fumigènes. Alors l'OM frappe un grand coup. Alexis Sanchez a un CV alléchant, 33 ans, 146 sélections avec le Chili. En club, il est passé par le Barça, Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan. Bon, alors hier, le Chilien n'avait pas encore la tête totalement au foot. Il a d'autres préoccupations tout aussi importantes.
Il faut d'abord trouver une maison pour être heureux avec ma famille. Et ensuite, je me concentrerai sur le foot, les entraînements. Mais pour gagner, le plus important est d'être heureux, pas que moi, ma famille et mes chiens aussi.
Je l'aime bien, ça me le rend très très sympathique, il a raison.
Bah oui, et puis alors on ne doute pas, Catom et Humber, c'est deux golden retrievers qu'on peut d'ailleurs suivre sur Instagram, ils ont un compte Instagram, et ben je pense qu'ils vont se plaire à Marseille.
Ah bah si vous êtes fan de l'OM, regardez ça, jetez un œil à son compte Instagram. Quand même, Alexis Sanchez affiche ses ambitions,
oui,
il en a.
Oui, bien sûr, le Sud-Américain qui portera le numéro 70 a entendu parler de l'OM avant de venir comme étant le plus grand club français avec une très grande histoire. Ça met la pression, mais ça ne lui fait pas peur, ça le pousse même à être meilleur, a-t-il lâché devant les journalistes hier. Le nouvel atout offensif de l'OM aime aussi les défis. Entre le championnat de France et la Ligue des Champions, il espère soulever un trophée, peut-être le 20e de sa carrière.
J'essaye de lutter pour des titres partout où je passe, donc c'est un défi de remporter quelque chose à Marseille. À l'Inter, avant mon arrivée, il n'avait pas gagné de championnat depuis 11 ans. Ici, c'est presque pareil, c'est un objectif personnel.
On l'a vu et entendu, hein, Sanchez plaît aux supporters et ses dirigeants ne manquent pas d'éloges à son égard.
Mais il suffit de demander à Pablo Longoria, le président de l'OM. Ça fait des mois qu'il draguait Sanchez pour le faire venir. Alors l'avoir dans l'équipe, ça va forcément apporter de l'expérience au groupe.
Il incarne tout ça qu'on a besoin. Un joueur qui peut jouer dans des différentes positions offensives avec le système actuel du coach, mais surtout un joueur qui nous permet d'avoir un sort de niveau. Changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif pour être plus compétitif.
Et El Niño Maravilla, traduit comme l'enfant prodige, son surnom sera maintenant très attendu sur le terrain. À voir si le cadeau de Noël, comme l'a désigné un journaliste en conférence de presse hier, séduira toujours autant le peuple olympien.
On verra ça, évidemment. Merci beaucoup, Léna Marjac, pour la Story Sport. À demain, la Story Sport est à retrouver sur l'appli RMC. On est avec Julien, on va le prendre dans quelques minutes. D'abord, revenons sur un autre débat sur lequel on voulait s'arrêter ce matin. Il est 5h41.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Un débat sur le cannabis qui est donc relancé après la publication d'une tribune dans Le Monde. Une trentaine de sénateurs socialistes veulent le légaliser. Pour eux, ça va permettre de financer des programmes de prévention grâce aux recettes fiscales récoltées avec la vente de cannabis. Ils vont déposer une proposition de loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Vous nous dites au 32-16 et sur Direct Studio, évidemment. Pour Bertrand Lebovici, médecin addictologue, l'interdiction n'a pas fonctionné. Il faut donc passer à autre chose.
Malheureusement, tout indique que la prohibition du cannabis est un échec. La France est, avec la Tchéquie, le pays où les consommations sont les plus élevées. Si une partie substantielle de l'argent que pourrait rapporter la légalisation du cannabis est utilisée dans le sens de la prévention au sens large, avant l'usage, pendant l'usage, après l'usage, dans le sens de la prévention et du soin, ce serait quelque chose d'extrêmement important et qui serait de nature à renforcer cette légalisation. Du point de vue de la santé publique, c'est une idée tout à fait centrale.
C'est intéressant ce qu'il dit, mais pour François Chaste, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, eh bien la légalisation est une fausse bonne idée, écoutez-le.
Dès lors que vous acceptez le principe d'une légalisation, après, toutes les portes sont ouvertes pour que l'usage soit en quelque sorte banalisé. On a 1,5 million de consommateurs réguliers de cannabis en France et on sait ce que ça coûte en termes de scolarisation, en termes de sociabilisation, de contraintes pour les familles. Le cannabis est dangereux pour la santé. Et ce que l'on doit maintenir, c'est qu'il n'y a pas de meilleure prévention que l'interdiction.
Bah vous nous dites ce que vous en pensez ce matin sur Direct Studio. À 6h40 dans Apolline Matin, Sébastien Krebs va recevoir Bernard Jomier, médecin sénateur de Paris et signataire donc de cette tribune. Julien nous appelle pour en parler. Julien de Montpellier, oui. Dans l'Hérault. Bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à tous.
Vous allez bien d'abord?
Ça va.
Vous
je viens de me lever.
Vous venez de vous réveiller avec RMC.
Ouais.
Bon réflexe.
<C'est ça. rire>
Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut légaliser ou pas?
Moi, je sais pas ce que ça. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Ça empêchera pas le trafic parallèle. Hein. Donc, je vois pas l'intérêt de le légaliser en fait.
Bah, l'intérêt, c'est justement de diminuer la consommation. Parce que pour l'instant, ce qu'on a entendu, c'est que la prohibition ne fonctionne pas. Pour rappeler qu'on est l'un des pays d'Europe où les adolescents consomment le plus de cannabis, et c'est quand même le problème majeur. Hein. C'est un problème de santé publique.
Si on regarde avec le tabac est légalisé, et pourtant ça n'empêche pas le trafic parallèle. Hein.
Vous pensez que ça sera pas, que c'est
je
pas
pense
la solution.
Que ça va rien changer de plus.
Et qu'à l'inverse, ça peut être même un mauvais signal.
Oui, parce que c'est quand même c'est quelque chose qui est prohibé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va légaliser quelque chose qui est prohibé, quoi.
Dans ces cas-là, ça sera pas plus prohibé, mais on va légaliser une drogue et ça vous dérange. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, voilà, c'est quand même, je sais pas. Enfin, après, on est dans un pays où les gens, la jeunesse, c'est le cannabis et les gaz hallucinogènes. D'autres, c'est les anxiolytiques. Enfin, on est un pays quand même d'hypocondriaque notoire. Et donc ça, c'est dans notre ADN de la population.
Ce qui est intéressant dans cette tribune, ce que disent les sénateurs, c'est qu'avec justement, si on légalise, on va pouvoir en tirer de l'argent à travers la fiscalité et que ça va pouvoir permettre de financer des programmes, de faire davantage de prévention. Ça, c'est utile quand même.
Peut-être que c'est une bonne chose. Après moi, c'est juste mon avis. Moi, je pense.
Non, mais je vous pose la question.
Rien.
Je vous pose la question.
Et,
je vous sens,
et après le cannabis, voilà, c'est qu'il y a combien. Enfin, l'État va prendre de l'argent dessus, mais est-ce que cet argent, il va servir vraiment à faire de la prévention, ou est-ce qu'il va être investi ailleurs? C'est toujours la même question.
Ah là, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée.
Parce que l'État court pour trouver des financements un peu partout, donc. La prévention, faire de la prévention, mais c'est comme le tabac, on a fait de la prévention, ça n'a pas empêché le nombre de fumeurs. Hein.
De la prévention, de la réinsertion, ce serait le but en fait. Merci beaucoup Julien d'avoir réagi ce matin au 32-16. Juste un mot, parce que vous nous appelez, j'en profite pour vous poser juste une question sur les incendies. C'est l'autre débat du jour ce matin, où vous voyez que la France est confrontée à tous ces feux, notamment en Gironde. 1000 pompiers sont mobilisés à l'heure où on se parle. Est-ce que ça vous inquiète?
C'est inquiétant. Oui, mais enfin, nous dans l'arc méditerranéen et notamment dans l'Hérault, nous ça fait depuis des années que chaque été on a des incendies. Hein.
Ouais.
Et après, je vais reprendre un peu ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, c'est toujours la théorie fumeuse, tu manques de moyens aériens. La vérité, c'est que toute l'Europe chaque été, notamment tout l'arc méditerranéen, est concernée par les incendies. Donc c'est une réponse européenne qu'il faut. Il faut une flotte, mais plus grosse flotte conséquente qu'européenne.
Mais là, certains pays européens vont venir nous aider. C'est pas une réponse européenne en tant que telle, mais il y a une forme de solidarité. Ça, on peut pas le nier.
Mais heureusement, c'est heureusement, parce que sinon, si on veut se débrouiller nous tout seuls, ou les Portugais, ou les Grecs,
vous pensez qu'on n'est pas non plus assez armés.
Hein. Ouais. Et après, on peut multiplier le nombre d'avions tant qu'on veut. À partir du moment où les incendies, 90% sont d'origine humaine, voire et criminelle, ça n'empêchera pas qu'il y ait des incendies. Hein.
Merci beaucoup Julien de nous avoir appelé ce matin. Merci d'avoir réagi au 32-16. Passez une très belle journée à l'écoute des RMC.
Également, bon courage à vous.
Il est 5h48. Dans un instant, on fera le point sur l'info justement. Il y aura la météo d'Anthony Kazmarek. Vous saurez tout. Et puis il y aura Angèle.
Bonjour Anaïs.
Ça va bien Angèle?
Ouais,
bonjour.
Ça va et toi?
On va parler de rock aujourd'hui.
On va rocker avec le livre Rock'n'Roll Justice, une petite histoire judiciaire du rock.
Voilà, ça va nous faire du bien. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
5h49, bon réveil. L'incendie qui a repris en Gironde n'est toujours pas maîtrisé. 1000 pompiers sont mobilisés, 6200 hectares de forêt sont partis en fumée, 10 000 personnes évacuées, notamment Laurence, habitante de Belin-Bélier.
J'avais le feu au fond de mon jardin, en fait. Donc, je sais pas où ça en est. On a peur pour nos biens, on a peur pour nos animaux. Moi, j'ai laissé des poules. J'avais des tortues, mais j'en ai retrouvé qu'une. C'était tellement fumé.
Reportage à suivre dans le journal de 6h. Elisabeth Borne, la première ministre, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sont attendus sur place aujourd'hui en Gironde pour souligner que le gouvernement est pleinement mobilisé. Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a appelé les employeurs à libérer leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils puissent rejoindre leurs collègues partout sur le territoire national. Et puis les pompiers sont mobilisés en Gironde, mais aussi sur des feux de moindre ampleur dans le Maine-et-Loire, l'Aveyron, la Drôme, l'Isère ou les Pyrénées-Orientales, au point qu'on
complet dans le journal. On attend vos témoignages au 32-16 ce matin. D'ailleurs, Anthony Kaczmarek, la météo est primordiale pour les pompiers. Il a fait chaud toute la nuit.
Oui, notamment dans l'Ouest. Il fait actuellement 24 degrés à Toulouse, 22 à Biarritz, à Bordeaux, à Bourges également et à Tours, 21 à Paris. Dans l'après-midi, il fera généralement de 33 à 39 degrés. 39 à Bordeaux, localement des pointes à 40 vers Mont-de-Marsan, 37 à Toulouse, à La Rochelle et à Limoges, 35 à Rennes et Grenoble, 34 à Paris, 33 à Lille et à Marseille et un petit peu moins près des plages de la Manche et de la Méditerranée grâce aux brises. Il y aura toujours du soleil, un ciel totalement dégagé, mais quelques entrées maritimes sur le Languedoc. Du vent sur tout le pays, un vent asséchant, un vent sec et chaud et quelques orages sur les reliefs du sud qui seront localement violents vers les Alpes du Sud et la montagne Corse.
Merci beaucoup Anthony. C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Comme tous les matins depuis le début de l'été, on retrouve Angèle Châtelier. Rebonjour Angèle. Ce matin, tu nous emmènes découvrir un livre plutôt musical.
Oui, ce livre, c'est Rock'n'Roll Justice ou comment tout savoir des histoires de groupes de rock qui ont été touchés de près ou de loin par des faits divers, des procès, des histoires de plagiat, des bagarres ou même des histoires plus sordides. Ce livre, il a été écrit par Fabrice Epstein, lui-même avocat, mais aussi grand fan de rock. Il y a par exemple cette histoire entre le grand Elvis et son impresario, le colonel Parker, qu'il aurait notamment vidé de sa fortune. Jim Morrison, qui aurait baissé son pantalon lors d'un concert et puis qui s'est retrouvé accusé d'indécence, par exemple.
Ah oui, génial. Ça a l'air très très intéressant, des petites histoires entre le rock et la justice.
C'est ça, mais Fabrice Epstein, je l'ai rencontré pour RMC, vous allez l'entendre, il montre aussi que le rock a parfois fait avancer le droit.
Finalement, je pense que les artistes sont pas plus judiciaires que les autres. C'est plutôt que le rock'n'roll est aussi une musique de contestation. Donc, au-delà de la drogue et finalement, ça c'est des épiphénomènes, il y a la volonté d'aller contre l'État. Et ça, c'est le cas avec Elvis, par exemple. Il y a des gens qui trouvent qu'il est indécent, donc ils écrivent au FBI pour le dire. Les Clash qui se battent contre la loi, mais la loi a gagné. Il y a toujours une volonté de mettre à distance le monde tel qu'il existe. Et ça, c'est une des grandes victoires du rock. C'est parfois aussi d'avoir fait avancer la jurisprudence. Dans le sens où les Sex Pistols, ils ont ce fameux disque, d'ailleurs, qui a un certain nombre d'années aujourd'hui, Nevermind the Bollocks. On a reproché à la pochette d'être indécente. Et donc, il y a eu une procédure, pas contre eux directement, mais contre des responsables de magasins de disques et leur label. Et ils ont gagné, et ils ont fait plier une loi qui était une loi contre l'indécence, et elle a été rayée des livres judiciaires. Donc, parfois, le rock fait avancer le droit.
Le rock révolutionne le droit, la législation. Donc là, on a parlé de plusieurs gros artistes qui ont eu du déboire avec la justice. J'imagine que ce n'est pas que ça dans le livre, il y a d'autres choses.
Non, il y a d'autres choses. Rock'n'Roll Justice, c'est plus globalement l'histoire qui relie le genre et les tribunaux n'est pas que négative, écoutez.
C'est pas que des mauvaises histoires et c'est aussi des choses qu'on ignore et pour les fans de rock, peut-être des découvertes. Par exemple, Dylan, moi je suis le premier à l'avoir découvert, c'est quelqu'un qui inspire toutes les juridictions américaines. C'est l'artiste le plus cité dans les décisions de justice. Donc en France, par exemple, il n'y a pas cette tradition de citer des auteurs, mais aux États-Unis, oui, on peut citer des grands auteurs. Et Dylan, bon, par exemple, sur le mariage gay et l'évolution, à la Cour suprême, on dit « the times they are changing ». Ça va être une inspiration réellement moderne, intellectuelle, et c'est là où je dis que le rock a un impact sur la jurisprudence. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll
un bon conseil lecture quoi pour l'été.
Et qui donne surtout envie de réécouter de grands classiques du rock vraiment, comme Jerry Lee Lewis, tiens, une infraction à lui tout seul, écrit Fabrice Epstein. Encore lorsqu'on lit une sombre histoire entre des sosies de Gainsbourg et de Johnny Hallyday.
Ah ça y est là j'ai les frissons.
Ouais, moi aussi.
Je l'ai dans la tête là pour toute la matinée. Merci Angèle. Rien que pour ça, merci. Rock'n'Roll Justice, livre de Fabrice Epstein. Et donc pour en apprendre sur les grandes histoires judiciaires du rock, merci pour cette belle
avec
découverte.
Plaisir.
Je vais m'empresser de le lire. Je reviens à notre débat ce matin. Ce matin, on parle évidemment largement des incendies parce qu'en Gironde, le feu continue de progresser. Plus de 6000 hectares déjà partis en fumée. 10 000 personnes évacuées, 1000 pompiers mobilisés. On va faire un point complet sur la situation avec vous ce matin au 3216 avec Direct Studio. On vous pose cette question. Est-ce que vous êtes inquiet? Vous nous dites, on vous attend au 3216. Tiens, on va en parler avec Sébastien Krebs qui prend le relais. Bonjour Sébastien.
Bonjour Anaïs, bonjour Angèle, bonjour, ça va, vous êtes en forme ce matin?
Je suis très en forme, Angèle nous a mis en forme là.
Ouais, je vois, ça réveille effectivement. Effectivement, on va revenir sur ces images absolument terrifiantes qui nous parviennent de Gironde. Situation toujours très difficile ce matin, beaucoup d'invités ce matin pour en parler en direct. Et je vous attends au 32-16, à tout de suite Anaïs, je t'attends. À tout de suite sur RMC.